Alors on est en direct du Festival International du Film d'Histoire de Pessac et on reçoit à présent Ben Salama, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Je vais très bien, je suis bien à Pessac, je suis arrivé hier en début d'après-midi. Mon film a été projeté hier à 16h30 et voilà, donc ça fait un peu moins de 24 heures que je suis à Pessac. C'est la deuxième fois que je viens à Pessac et c'est un plaisir de revenir ici.
Et cette fois-ci, vous revenez avec un nouveau documentaire qui s'intitule 444 jours qui ont fait plier l'Amérique. Qu'est-ce que ça représente pour vous de montrer ce documentaire dans le cadre de ce festival et à un public en cinéma ?
C'est toujours un plaisir lorsque on a travaillé sur un film, qu'il soit sélectionné par des professionnels. Parce qu'un festival, c'est une sélection de professionnels. Là, il y a une équipe de professionnels qui ont choisi de présenter une dizaine de documentaires, je crois exactement. Exactement 11. Donc de faire partie de ces 11 films, c'est un plaisir. Et puis il y a cette rencontre avec le public, cet échange que j'ai eu hier avec le public que l'on ne peut pas avoir à travers l'écran de télévision. Voir son film sur grand écran, avoir un échange avec un public en chair et en os, c'est toujours un moment important pour un réalisateur.
444 jours qui ont fait plier l'Amérique, c'est une affaire très complexe qui remonte donc à 1979 où on a vu la libération de 52 otages à l'ambassade américaine. On va en parler plus en détail, mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez décidé de vous intéresser à ce sujet-là particulièrement ?
Pourquoi ? Vous savez, lorsqu'on est auteur, réalisateur ou artiste, je ne me considère pas comme artiste, on fait les films en fonction de sa sensibilité. Je suis un réalisateur franco-algérien avec donc cette double sensibilité. Et puis, c'est toujours une question de rencontre. En fait, j'avais fait un film en 2016-2017 qui s'appelle Alger, la Mecque des révolutionnaires, que j'avais présenté à Alger, qui a eu un accueil formidable. Et j'avais rencontré un des négociateurs algériens de cette affaire, qui s'appelle Reda Malek, qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas un film sur cette histoire ?» Je pourrais t'aider. Malheureusement, c'était fin avril 2017. Je suis parti en Nouvelle-Calédonie pour tourner un autre film. Et j'ai appris le décès de ce personnage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Reda Malek. D'ailleurs, le film lui est dédié à la fin, dans le générique de fin. J'ai appris fin juillet, alors que j'étais dans le nord de la Nouvelle-Calédonie en train de tourner un film, son décès. Mais cette idée m'est restée à l'esprit et puis elle est revenue quelques années après. Donc là, j'ai commencé à travailler dessus et j'ai trouvé que c'était une histoire intéressante. Au départ, l'idée, c'était de faire un film sur les négociations qui ont permis la libération. Mais en fait, j'ai découvert que cette histoire est beaucoup plus intéressante que cette histoire simplement de négociation. C'est comment les islamistes, comment l'ayatollah Khomeini a utilisé cette affaire des otages pour prendre le pouvoir complètement, asseoir son pouvoir théocratique en Iran au début de la révolution iranienne de 78-79. Je ne parle pas de la révolution récente menée en particulier par les femmes, mais c'était il y a 40 ans.
Pendant les événements, on voit que la communauté internationale, très tôt, elle va un peu choisir l'Algérie comme arbitre entre les États-Unis et l'Iran. Est-ce que vous, le fait d'être franco-algérien, ça a pu permettre que vous ayez un regard neuf et nouveau, et peut-être neutre sur cette affaire ?
Je ne sais pas si j'ai un regard neutre, j'ai un regard honnête. Donc, je n'ai pas essayé de privilégier les Algériens dans le film. En fait, si on a choisi l'Algérie, c'est expliqué, je pense, un peu dans le film. C'est que, d'ailleurs, c'est un peu une suite de Alger, la Mecque des révolutionnaires. Dans les années 60-70, Alger avait une aura extraordinaire. Juste après l'indépendance, dans les pays du tiers-monde, l'Algérie représentait quelque chose, et auprès des Iraniens aussi, ce qui fait que les Algériens étaient bien vus du côté iranien. Et puis, ils commençaient à avoir de bonnes relations avec les Américains. Donc, tout le monde voyait que l'Algérie, dans le contexte de l'époque, pouvait être un très bon intermédiaire. C'est beaucoup plus facile pour des Algériens un des leaders du tiers-monde de l'époque de servir d'intermédiaire que pour la Suisse, pour l'Allemagne ou pour la France, ou pour qui était considéré dans le camp occidental. C'est, mais en même temps, les Algériens n'ont pas été uniquement dans le sens iranien. C'est-à-dire qu'ils ont aidé les Iraniens à comprendre que dans les pays occidentaux, il y a des lois et qu'il faut les respecter. On ne peut pas faire comme ça des décisions en disant on va renvoyer tel argent ou telle personne. C'était pas possible. Donc ils ont cherché à faire comprendre aux Américains comment fonctionnent les mollahs et pour les mollahs comment fonctionne un pays de droit comme les États-Unis. Ils ont joué un rôle vraiment très très important. Mais en même temps, ils l'ont fait vers la fin, quoi, avec au moment où Khomeini n'avait plus besoin des otages pour asseoir sa théocratie.
Il est intéressant le titre de votre documentaire, 444 jours qui ont fait plier l'Amérique, parce que déjà, on a un élément de temporalité. C'est 444 jours, sans doute parce que ça a été très très long. Et il y a aussi le mot plier. Pour vous, pourquoi c'est important d'avoir ce titre-là, d'employer ce terme-là? Parce que c'est vrai que plier, pour moi, j'entends que ça fait écho. En fait, les États-Unis n'ont pas eu d'autre choix que de se résigner à se soumettre aux exigences de l'Iran. Est-ce que c'est ça que vous vouliez montrer avec ce titre ?
Oui, oui, les États-Unis, en tout cas les États-Unis de Jimmy Carter, hein, puisque c'est lui qui était président, n'avait pas d'autre choix parce que sa priorité était de sauver les otages. Aucun otage n'est décédé, aucun otage n'a été blessé en dehors de ceux qui étaient malades. Donc lorsqu'une démocratie comme les États-Unis a le souci de la vie humaine face à une dictature qui ne l'a pas, et ben souvent on est obligé de se plier à ces dictateurs, quoi. C'est ça le dilemme. C'est que moi j'ai beaucoup, certains me disent que le film critique un peu l'attitude de Jimmy Carter. Enfin, je le pense pas, parce que pour moi c'est vraiment quelqu'un d'humaniste et qui a tout fait pour sauver les otages. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce personnage. Alors, il apparaît comme faible face à Khomeini, un dictateur qui est prêt à tout. Mais il a sauvé les otages, quoi. Il a sauvé les otages. C'était important. Mais effectivement, il s'est plié petit à petit aux exigences de Khomeini. Et c'est ce qui lui a coûté probablement sa réélection, hein, parce que face à Reagan qui bombait le torse, ben c'est Reagan qui a été élu avant la fin d'ailleurs de cette histoire face à Carter.
On l'a dit, cette prise d'otage, elle a fait plier les États-Unis, pour reprendre le terme du film. Vous avez fait des recherches sur le sujet. Il y a beaucoup d'intervenants, notamment américains. Comment les Américains aujourd'hui voient cet événement ? Est-ce que c'est quelque chose d'humiliant qu'ils veulent un peu enterrer, ou au contraire, ils en font une force en se disant ça nous arrivait une fois et on fera en sorte que ça nous arrivera plus jamais ? Comment ils voient la chose ?
Ah, c'est un traumatisme pour les Américains, parce que c'est la première fois dans leur histoire qu'ils ont vu leur fragilité. C'est la première fois. C'est dans leur histoire qui est une histoire courte par rapport aux pays européens. Vous avez un géant au pied d'argile. Là, ils se sont rendus compte que face à une dictature, même un petit pays et une prise d'otage, c'est très difficile de s'en sortir. Donc ils vivent ça comme un traumatisme. Alors certains en tirent des leçons en disant il faut que les Américains ou que les États-Unis se comportent différemment parce qu'ils se comportaient comme chez eux en Iran pendant plusieurs décennies. Et d'autres continuent à bomber le torse, comme Trump qui avait menacé, lorsqu'il était président il y a encore 3 ans, menacer l'Iran de bombarder 52 sites iraniens en faisant référence aux 52 otages. Donc c'est vraiment quelque chose qui parle encore aux Américains. C'est, C'est un traumatisme.
On a l'impression que c'est toujours délicat d'aborder des sujets concernant les pays à prédominance islamique, où il y a un régime entre le religieux et le politique. Est-ce qu'aujourd'hui, encore en Occident, il y a énormément de préjugés, voire un certain dédain envers ces pays-là, comme quoi, parce qu'ils sont encore ancrés dans le religieux qui est mêlé à tout, hein, que ce soit d'un point de vue culturel, sociétal et politique, est-ce qu'ils sont encore vus comme des pays arriérés ?
Je ne sais pas, des préjugés existent toujours, hein, de tous les côtés. Hein. Moi, je disais, je suis franco-algérien, je reviens d'Algérie. Il y a aussi un certain nombre de jeunes algériens qui ont des préjugés sur les jeunes européens. Les préjugés existent de tous les côtés. Moi, en tout cas, je l'ai traité sans complexe et sans préjugé. Et ça fait depuis longtemps que je traite des sujets que d'autres réalisateurs ne traitent pas sur l'islam. J'ai fait un film qui s'appelle « Au nom de l'islam, comment on a utilisé la religion pour des raisons politiques ». C'est depuis les frères musulmans, donc les années 1920. J'ai fait plein d'autres films sur ces pays-là, donc sans complexe. Bien sûr qu'il y a une méconnaissance, bien sûr qu'aujourd'hui, dans les médias français, lorsqu'on parle de l'islam, je dirais ça s'enflamme et on dit n'importe quoi. Et on fait forcément l'amalgame islam, islamisme, terrorisme. Mais ça, c'est une manipulation qui est faite pour des raisons politiques. Lorsqu'on regarde en Europe, la majorité des musulmans, je parle des musulmans croyants, vivent leur religion paisiblement. Mais il y en a bien évidemment qui instrumentalisent cette religion. Et puis, dès qu'on est originaire de ces pays musulmans, on est considéré comme un musulman. Je suis persuadé que dans les fichiers, quelque part, je suis considéré comme musulman alors que je ne suis pas croyant. Donc, vous voyez, mais ça, c'est malheureusement, on peut pas échapper à ça dans le contexte d'un combat politique où on est prêt à tout, à remuer la boue et, pardon de m'exprimer ainsi, même la merde, pour pouvoir gagner une élection. Hein. Ça se fait malheureusement partout.
Et en parlant d'actualité et de médias, hein, l'actualité rattrape un peu votre film, puisque dernièrement en Iran, il y a une nouvelle révolution qui a lieu, une révolution culturelle, notamment au niveau des femmes, mais aussi qui revendique des droits pour les minorités. Quel parallèle vous faites entre votre documentaire et ce qui se passe en ce moment en Iran, et quel regard vous portez sur la situation ?
Alors, il y a plusieurs questions. Est-ce qu'il y a un parallèle entre mon film et ce qui se passe aujourd'hui ? Je pense que quand je fais des films d'histoire, j'aime bien qu'on puisse le regarder en questionnant le présent. Quand on a vu comment les islamistes ont pris le pouvoir en 79-80 en Iran, on sait comment ça s'est installé, ce régime. Et on peut se dire aussi qu'il y a une société civile iranienne qui est très forte et qui peut changer les choses. Ça fait depuis plusieurs années que je pense que l'Iran, la société civile iranienne, elle est dans l'après-islamisme. Comme dans les années 1980, les sociétés des pays de l'Est soviétiques étaient dans l'après-communisme. Donc la société civile est mûre pour passer à un autre régime politique. Ce n'est pas le cas de la plupart des pays musulmans. La société civile la plus, comment dire, je ne vais pas dire évoluer parce que ça veut dire que je juge le degré, mais qui est dans la capacité de passer à une société qui sort de la religion, c'est la société iranienne aujourd'hui dans l'ensemble des pays musulmans. Ce n'est pas à Alger, ce n'est pas à Tunis, ce n'est pas au Caire, ce n'est pas, ces sociétés-là qui sont. En Iran, on peut aujourd'hui, mais depuis quelques années, des hommes et des femmes jeunes ou moins jeunes qui disent « je ne suis pas croyant, je suis athée, je m'en fous de la religion, ça ne m'intéresse pas ». À Alger, on ne peut pas le dire. à Tunis, on ne peut pas le dire. À Rabat, on ne peut pas le dire. Au Caire, on ne peut pas le dire. En Arabie Saoudite, encore moins. Donc vous voyez, c'est vraiment une société qui a 40 ans, plus de 40 ans d'un régime des Mollahs, a permis à cette société de se libérer complètement de la religion. Je ne dis pas par là que le peuple iranien n'est pas croyant, mais ils ne veulent plus de la religion pour les diriger politiquement. Ils veulent séparer la religion de la politique, du régime politique.
Et justement, pour rejoindre ce que vous êtes en train de dire, ce qui est intéressant dans le film, c'est de voir cette étude contextuelle, d'expliquer un peu l'histoire de l'Iran, pourquoi on en est arrivé là, ce qui fait un peu écho à l'information aux médias, où on voit que là, pour le coup, l'information elle est traitée à la loupe. On est vraiment dans l'instantanéité. On étudie pas vraiment les événements, c'est juste des révolutionnaires qui font une prise d'otage. Est-ce que pour vous, c'était important dans votre film de montrer tout ce contexte, d'expliquer pourquoi il y a eu ces événements, pourquoi les gens agissent comme ça? Et est-ce que les médias devraient peut-être plus le faire? Est-ce que ça serait salutaire de contextualiser ces événements?
Oui, ce serait salutaire, mais malheureusement, les médias courent après le temps. Quand on regarde les chaînes d'infos, elles répètent la même chose pendant 24 heures, 48 heures, les mêmes faits. Et on a une espèce comme ça de robinet d'infos et on ne prend jamais le recul. Puis aussi parce que c'est pas une critique des journalistes, les rédactions sont formés de gens capables de faire un fait divers comme de parler de l'Iran, comme de parler de ces... Et ils n'ont pas le temps, le savoir, beaucoup d'infos comme ça qui permettent de prendre du recul et d'expliquer. J'ai fait une carrière de journaliste moi-même. En 2001, lorsqu'il y a eu l'histoire de l'Afghanistan, de New York, etc., je me suis aperçu, à l'époque j'étais à la rédaction en chef d'un journal télévisé, de la méconnaissance de la rédaction de cette région, jusqu'au point de ne pas savoir que l'alphabet arabe, comme l'alphabet latin, on peut écrire plusieurs langues, avec l'alphabet arabe, on écrit plusieurs langues. On écrit persan, l'iranien, on écrit l'ourdou, afghan, on écrit plein d'autres langues. Je me souviens d'un journaliste qui met dans son commentaire, en parlant de l'Afghanistan, le communiqué en arabe du Mollah Omar. Le Mollah Omar, c'était l'ourdou. Mais il l'écrivait avec... Donc il y avait une méconnaissance complètement de la région, des minorités, parce que lorsqu'on regarde l'Afghanistan, il y a énormément de minorités, même l'Iran. Il n'y a pas que les persans, il y a énormément de minorités. Mais ça, c'est parce que ce n'est pas étudié à l'école, ce n'est pas étudié au lycée, ce n'est pas étudié dans les écoles de journalisme. Donc ce n'est pas un reproche, c'est un constat que je fais. On connaît beaucoup mieux les États-Unis que le Moyen-Orient. Et pourtant, l'actualité géopolitique se passe au Moyen-Orient. Et aux États-Unis, dès qu'il y a n'importe quel fait divers, on l'a pendant une semaine sur les chaînes d'info en France, en Europe, parce qu'il y a un robinet d'images qui vient des États-Unis. Lorsqu'il y a des événements et de je ne sais combien de morts au Moyen-Orient ou en Afrique, on en parle de temps en temps parce que, voilà, on a combien de correspondants français des chaînes ou des journaux aux États-Unis et combien de correspondants français en Afrique et au Moyen-Orient. C'est comme ça, c'est un constat. Que je fais.
Et cette méconnaissance dont vous parlez, elle se répercute indirectement sur l'information. Quand on voit qu'il se passe des choses importantes dans d'autres pays comme l'Iran, par exemple aujourd'hui, est-ce qu'il faut quand même faire l'effort de s'informer, même si les informations ne sont pas toujours justes? Parce que c'est vrai qu'on voit aussi pas mal de récupérations politiques, qu'elles soient positives ou négatives. On voit aussi des soutiens par rapport à la cause des femmes en Iran. Mais des fois, ça peut être un peu maladroit parce qu'on n'a pas toutes les clés, toutes les informations. Est-ce qu'il faut quand même se fier un peu à ce qui est véhiculé et se projeter, ou pas du tout, justement, peut-être plus se tourner vers des documentaires, et c'est pas grave si on n'est pas bien informé sur un pays, l'essentiel c'est d'être plutôt dans la vérité, quelque chose de fiable.
Non, il faut pas attendre les documentaires, parce que les documentaires viennent quelques années après, parfois quelques décennies après. Non, il faut continuer à s'informer. Il faut multiplier les sources. Il faut pas uniquement que ça soit Internet, il faut que ça soit plusieurs sources, des journaux, des sites d'infos de référence, parce qu'il y en a, je vais pas en citer. difficulté. Il faut vraiment multiplier les sources et comparer et ne pas être informé uniquement par un seul canal. C'est très important pour moi. Mais il faut continuer à s'informer. Il ne faut pas se dire on nous ment, parce que si on ne croit plus rien, on ne s'informe pas et on s'enferme. Il faut être prudent. À chaque fois que l'on a une information, il faut la prendre comme un élément et se dire, est-ce que je peux comparer, est-ce que je peux regarder ailleurs pour avoir un complément, pour vérifier autant que possible, si on a le temps.
Du coup, pour réaliser ce film, est-ce que vous pensez que votre passé de journaliste vous a permis d'avoir une analyse plus pertinente sur le sujet, vu que vous connaissez les rouages, vous nous expliquez le besoin de croiser les sources, etc. Est-ce que vous pensez que ça a pesé dans la balance ?
Je ne sais pas si c'est mon passé de journaliste, parce qu'en fait moi j'ai fait une école de cinéma avant de faire du journalisme. J'ai fait du journalisme parce qu'à un moment donné il fallait gagner ma vie et c'était plus facile en tant que journaliste de gagner sa vie qu'en tant que réalisateur, et je suis revenu à la réalisation il y a une quinzaine d'années. Non, je traite mes films, je fais beaucoup de films d'histoire, mais à chaque fois avec un regard personnel, j'allais dire politique, au sens où moi l'histoire ne m'intéresse pas pour raconter les faits s'il n'y a pas un sens qui permet de comprendre aussi le présent. Je suis extrêmement, comment dire, je fais très attention que tout ce qui est raconté est exact. Je le vérifie 10 fois, chaque fait. Je vérifie, mais parfois même au moment de l'écriture définitive du commentaire, alors que j'étais sûr du fait, je revérifie pour être sûr. Mais les faits ne sont intéressants que s'ils peuvent nous apporter quelque chose. Sur cette histoire des otages, il y a eu, les Américains ont fait des dizaines et des dizaines de documentaires où ils ont raconté les faits, beaucoup d'émotions sur les difficultés. Je les comprends, hein, puisque 15 mois d'emprisonnement, c'est très difficile, donc ils racontent leurs difficultés et autres. Cette histoire a été racontée, je la respecte. Pour moi, avec le recul, ce qui m'intéressait, ce n'est pas uniquement ça, il faut aussi le raconter, je pense que je le dis suffisamment dans le film, mais c'est d'expliquer pour quelles raisons cette prise d'otage a duré aussi longtemps. C'était ça qui était intéressant pour moi. Et comment un homme, un dictateur, a utilisé cette prise d'otage pour asseoir définitivement son pouvoir et éliminer tous ses amis, tous ses partenaires, comme dans n'importe quelle dictature. C'est ça qui m'intéressait. Donc j'ai toujours fait des films dans ce sens-là, c'est-à-dire essayer de donner un éclairage à ces faits historiques.
On va bientôt terminer. Peut-être une dernière question au sujet de la forme de votre documentaire. Donc, c'est un documentaire destiné pour la télévision. Vous parlez de l'importance pour vous de vérifier les faits, de véhiculer des informations exactes. Est-ce que ce genre de format, ça vous permet de faire un film qui vous convient à vous, selon vos exigences personnelles? Et aussi, est-ce que ça, il n'y a pas trop de contraintes au niveau de la créativité, de la mise en scène, etc.
Ah, il y a des contraintes. J'aurais aimé avoir plus de temps, parce que une heure, c'est très court pour raconter cette histoire. Oui, il y a des contraintes, mais quand on accepte de travailler dans ce contexte, on accepte aussi les contraintes. Voilà, ça a été difficile. Hein, j'ai fait beaucoup de sacrifices, c'est-à-dire des choses que j'aurais voulu raconter que j'ai pas raconté. Mais en même temps, un film comme ça qui va être regardé par je ne sais combien de centaines de milliers de personnes sur une chaîne de télé, dans une diffusion cinéma, les documentaires, quand ils arrivent à être vus par 5000 spectateurs, c'est déjà un succès.
Et que peut-on vous souhaiter pour la suite ? Est-ce que vous avez d'autres projets à venir, d'autres sujets en tête que vous souhaiteriez traiter ?
On a toujours des sujets en tête. Vous savez, je vous ai expliqué que j'ai fait une école de cinéma il y a très 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 longtemps. Aucun de vous trois n'était né à l'époque. Je suis passé après par la case journalisme. Donc j'ai plein de sujets que j'ai envie de faire. Puis bon, certains je vais pouvoir les faire et d'autres pas. Mais d'autres prendront la relève, je l'espère.
Merci beaucoup, Ben Salama.
Merci beaucoup.
Merci à vous.